Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
C'est marrant, à chaque fois que je dis que je bosse dans le foot, la première chose qu'on me demande, c'est si je suis agent.
Ça, c'est à cause de la barbe.
Tu crois?
Écoute,
en tout cas, tu vois, j'ai l'impression que l'attention des gens, dès que tu parles foot business, elle est polarisée autour de l'agent. Et c'est bizarre parce que, paradoxalement, je trouve que c'est le métier du foot qui est le moins bien compris et le moins connu.
Ouais, en fin de compte, oui, quand t'es agent, ce mot a tellement été dévoyé, ils ont tellement une mauvaise image, et parfois ils ont pas eu besoin des médias pour avoir une mauvaise image, ils ont fait vraiment de la merde, que c'est tellement facile de se dire qu'un agent est véreux, alors que pour moi, je trouve qu'ils sont nécessaires pour, on va dire, une grande majorité de joueurs, justement pour que leur travail, entre guillemets, le travail des joueurs puisse être promu et reconnu en dehors des frontières.
Ouais, c'est ça, je pense que tu vois, le média naturellement qui a besoin de matière, il se concentre sur les dérives, alors que le métier d'agent et sa place dans l'économie du foot, c'est tellement structurel que ce serait intéressant, je pense, pour les gens de comprendre ce que font ces gens-là et comment.
Oui, parce que c'est pas que du sensationnel, hein. Ça, c'est les médias le vendent à la sauce sensationnelle pour vendre, mais être agent, c'est autre chose. D'ailleurs, je vais t'en présenter un qui a la licence, certes, mais qui a une vraie vocation à accompagner les joueurs le mieux possible, privilégier le sportif sur le financier. Ouais. Et il est polyglotte, en plus.
C'est vrai. Ah, donc il ne bosse pas que sur la France.
Il ne bosse pas que sur la France. Il bosse partout, principalement un petit peu en Amérique du Sud.
D'accord.
Et je te propose qu'on aille le voir.
Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux?
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football. Le podcast hors terrain de SoFoot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille Palette.
Bonjour à tous. Salut Édouard. Salut Joachim.
Bonjour.
On se retrouve autour de la table d'Alternative Football pour aborder une vaste question aujourd'hui. Celle des agents, et plus précisément, on va essayer de savoir si c'est l'agent qui fait la carrière ou si l'agent il fait le bonheur.
Alternative Football.
Donc merci Alternative Football et Edouard pour cette invitation. Voilà, Joachim Batica, agent licencié par la Fédération Française de Football depuis 15 ans, donc depuis 2006. L'histoire, c'est que je suis à Madrid, dans ma chambre d'étudiant. On est en 2004, c'est ma dernière année d'études. Et je me dis, bon, maintenant, il va falloir réfléchir à ce que je veux faire plus tard, puisque c'était ma dernière année. Je parle plusieurs langues.
C'est quoi les langues que tu parles?
Donc, français, portugais, espagnol, anglais, italien.
Effectivement, ça peut aider pour le foot.
À l'époque, je ne parlais pas encore l'italien. J'avais quelques petites notions.
Pour le coup, t'aurais pu dire, bah, je vais faire interprète de manière très simple.
Non.
C'était un chemin tout tracé.
Ça aurait pu être le cas, mais j'aime également le sport, ouais. Notamment le football. En principe, je suis assez à l'aise pour communiquer avec mon entourage proche, faire des rencontres, et je me suis dit que peut-être la carrière d'agent pouvait être le bon choix. J'ai contacté la Fédération Française de Football. On est en 2004, j'ai passé pour la première fois la licence en 2005. Donc là, ça faisait 10 ans que ma mère était décédée. Donc c'était un cadeau, un petit clin d'œil, 10 ans, je vais passer ma licence. Et puis j'avais même, à l'époque, je me souviens sur mes notes, du 95-2005. Bon, je ne l'ai pas eu en 2005, mais j'ai insisté, comme toujours. Et je l'ai eu en 2006.
Et je rebondis sur ça d'ailleurs, parce que... Il y a à peu près 400 agents sous licence en France.
Oui.
Sur ces 400-là, à peu près, combien gagnent vraiment leur vie? Tu vois, je peux prendre une comparaison avec normalement le circuit des joueurs de, je sais pas, de tennis, par exemple, où t'as 10 stars absolues qui gagnent des millions, oui. Et derrière, t'as des milliers de tennisman dont la vie est complètement différente. Voilà, les agents, on en connaît certains de nom. On fera peut-être la différence plus tard entre ceux qui sont vraiment agents, ceux qui sont dealmakers ou autres. Mmh. Mais tu l'évalues à combien à peu près le pourcentage d'agents qui gagnent leur vie grâce à ce métier-là?
J'ai pas envie de donner un chiffre qui soit pas le bon. Une cinquantaine peut-être.
D'accord.
Peut-être un peu plus, je ne sais pas.
C'est une question d'ailleurs que j'avais envie de vous poser à tous les deux sur ce sujet-là. À quoi on mesure le succès quand on est agent? Et du coup, à quoi on mesure le succès en tant qu'agent quand on est agent? Et à quoi on mesure le succès de son agent en tant que joueur?
Bon, le succès est peut-être mesuré par à quel niveau le joueur évolue, quel type de contrat il signe. Bien évidemment, au niveau de l'agence, qu'est-ce qui est facturé? Ça fait l'agence doit tourner. Mais le plus gros succès, il m'est arrivé que la sœur d'un joueur me dise « Tu as changé nos vies ». Et là, je mesure mon succès. Je suis content. Je suis content et c'est plus gratifiant qu'une facture, un contrat, parce que c'est-à-dire que l'entourage proche d'un joueur reconnaît
la nécessité de ton travail.
Voilà.
Et la réussite pour le coup.
Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas. L'agent, effectivement, doit promouvoir le joueur, mais ce qui n'est pas dit. Ou ce qui est peu dit, parce qu'on parle souvent de commission, montant, etc. La fonction première d'un agent est d'analyser des contrats d'un point de vue juridique. Ça, c'est très important. On confond des fois les métiers. Scout, aller voir des matchs de football, ne fait pas de vous un agent. Mm-hmm. Même si ça peut vous aider à être un agent. Alors effectivement, lorsque je vois pour la première fois Joël Campbell évoluer donc au Costa Rica, il a 15-16 ans, et qui fait des tests dans 5 clubs français à l'âge de 17 ans et qui signe nulle part, pour ne pas les citer, Paris Saint-Germain, Lille, Nancy, Le Havre, Lorient. Lorient, j'en oublie un. Le Havre. Je vous en ai cité combien?
Ouais, 5, c'est déjà pas mal.
Il y en a un qui est passé entre les mailles du filet.
Non. C'est-à-dire, il a fait 5 tests ici en France. Je l'ai vu jouer. D'accord? Je l'ai vu jouer. Bon, il était proche de signer au PSG. Mm-hmm. Il rentre au Costa Rica. Un an et demi plus tard, il signe à Arsenal. Bon, je l'ai repéré. Et parce que je l'ai vu jouer, j'ai trouvé qu'il avait du potentiel. Mais Joël fait appel à moi premièrement. Pourquoi? Pour analyser des contrats. Tous les contrats qu'il a signés, que ce soit contrat avec Arsenal, le prêt à Lorient, deux fois prêté au Betis de Séville, prêté à Villarreal, prêté à l'Olympiakos, transféré en Italie, transféré au Mexique, d'un point de vue juridique, ont été gérés par mon agence.
D'accord.
Et sur le plan juridique, moi-même. Donc, il y a un aspect, oui, commercial. Il y a un aspect juridique. Ensuite, vous devez gérer. Parce que, sans dénigrer la licence que j'ai passée, quelqu'un qui n'est pas plus bête qu'un autre. J'ai fait une école de commerce, 5 ans. J'ai étudié pendant 5 ans. Mais vous pouvez très bien avoir une formation, je dirais, de base. Vous enfermez chez vous pendant un an. Vous passez votre licence. Vous avez votre licence. Vous n'êtes pas préparé à gérer une société, à gérer un contrôle de la LFP, à vous organiser, à embaucher. Tout ça, c'est du management.
Est-ce qu'un agent, c'est un entrepreneur?
Tout à fait. Tout à fait. L'agent est un entrepreneur. Et ça, ça n'est pas souvent dit. Et malheureusement, je reviens au début de notre conversation. Je parlais du fait que j'ai pu, grâce à Dieu, voyager et voir ce qui se passe, par exemple, en étant encore étudiant aux États-Unis, l'université, j'étais dans une université qui est prestigieuse, UCLA, mais tout est beaucoup plus pratique. Quand vous êtes étudiant en école de commerce, bon, c'est la formation française qui est comme ça, mais on vous vend toujours, vous faites partie de telle catégorie, vous êtes l'élite, vous valez tant. Non, vous valez ce que vous donnera le marché du travail quand vous sortirez.
T'as raison.
Et quand vous avez votre licence, bon, ça y est, vous êtes licencié. Effectivement, ce jour-là, j'étais vraiment très content d'avoir ma licence et je sentais que ma vie allait changer. Mais après, vous êtes sur le marché comme tout le monde, à chercher des joueurs, à faire des contacts.
C'est comme un jeune joueur quand il signe pro. Ouais. Quand il signe pro, c'est pas la fin, c'est pas une fin en soi. Il doit continuer encore.
Et là, enfin, ce que je retiens, ce que tu dis, c'est après, c'est des mécaniques, que t'emploies dans tous les métiers. C'est pertinence par rapport au marché. Toi, pourquoi tu te places sur le Costa Rica et peut-être l'Amérique du Sud? Déjà, t'as une compétence et tu parles la langue.
Ouais.
Et puis peut-être que là-bas, c'est moins structuré sur la représentation, donc il y a une opportunité pour les amener en Europe. Alors que si tu vas sur la France, c'est un marché qui est un peu plus saturé et concurrentiel. Donc c'est en ça l'analogie avec l'entrepreneur, je la trouve effectivement assez pertinente, parce que encore une fois, si je suis dans la caricature, la perception de l'agent, c'est il est tombé sur la poule aux œufs d'or. Ouais. C'était facile, c'était comme tu le disais, son voisin ou c'était son cousin.
Ouais.
Et du coup, il l'a amené à Manchester et tout le monde a manqué.
Ouais.
Sauf que, encore une fois, il y a derrière un vrai travail de structuration de ce métier-là.
Tout à fait. Alors, bien évidemment, il peut y avoir des cas. Et malheureusement, le fait que les médias, en tout cas certains médias, montrent et posent le fait que telle personne qui est proche de tel joueur pour des raisons familiales, pour des raisons amicales ou pour des raisons ensuite professionnelles, réussit à vivre par le fait qu'il est proche d'un joueur sans avoir forcément toutes ses qualités, tout ce que l'on vient d'évoquer, parce que vous pouvez très bien gagner de l'argent en accompagnant un joueur. Simplement parce qu'il y a un rapport de confiance entre vous, sans avoir toutes ces qualités-là, ça arrive, mais je pense que le montrer, de trop le montrer, n'est pas bon, parce que ça attire l'intérêt, je dirais, des mauvaises personnes.
Mmh.
Et là, ça devient dangereux.
Alternative football.
Il y a un travail d'accompagnement aussi du joueur au jour le jour. On imagine. T'as un joueur, il fait 6 bons mois, et puis du jour au lendemain, il pète les plombs, il dit « ouais, je veux Manchester United ». Mais tu sais qu'il n'a pas les moyens. Tu sais qu'objectivement, ça va être compliqué. Comment tu fais pour lui expliquer ?
C'est très simple. Je ne peux pas rentrer dans ces détails, donner les informations précises pour des raisons, je dirais, de secret professionnel.
Bien sûr.
Il m'est arrivé de dire à un joueur, on travaillait depuis un certain temps ensemble, et le joueur me dit « voilà ». J'ai été contacté par telle agence. Elle me donne la possibilité de rejoindre tel club.
Un gros club.
J'explique aux joueurs, par rapport à telle et telle caractéristique physique, technique et de poste, au moment où on se parle, et par rapport au marché, je pense que tu ne peux pas rejoindre tel club. C'est difficile à dire, mais on le dit. On peut te vendre que, éventuellement, telle agence a telle entrée ici. S'il s'agissait... par exemple, Ariedo Braida, que je connais personnellement, on a de très bons rapports. À un moment donné, donc il était au Milan AC pendant un certain nombre d'années. Ensuite, à Barcelone, il n'est plus là-bas. Maintenant, il est rentré en Italie. C'est comme si je disais, bon voilà, j'ai le numéro d'Ariedo Braida sur mon téléphone, on se parle, tu peux signer à Barcelone. C'est ridicule.
Il y a beaucoup d'agents qui ont fait ça.
Il faut être honnête avec le joueur. C'est pourquoi l'agent est important. Par exemple, on a un jeune... Pour ne pas le citer, je donne simplement son prénom. Il s'appelle Iliès, il est né en 2005. Il venait d'être convoqué en équipe de France. C'est son deuxième rassemblement. Il en a loupé d'autres à cause des fois le Covid, rassemblement annulé, etc. Il l'a appelé, je lui explique tout simplement. Écoute, Iliès, en sélection, c'est bien. Mais tu n'as encore rien fait du tout. Tu es au Havre, tu es un joueur surclassé. Des fois, tu t'entraînes avec les U19, tu joues avec les U17. C'est bien, tu es en sélection. Il y a des joueurs qui sont là en sélection. U17, U15, U16, tout ce... Et puis finalement, ça n'a rien donné. Donc, il faut rester calme. Quand vous êtes approché par quelqu'un qui ne vous connaît pas, ah ben c'est bien, vous êtes en sélection, on peut t'amener là-bas, on peut te faire ici. Il n'y a aucun projet de quoi que ce soit. Donc, le projet, c'est que tu es dans un club français. Actuellement, il est bon d'être un footballeur en France aujourd'hui. On est champion du monde, on a une très bonne formation. Les sirènes, l'étranger, il faut partir. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'à l'étranger, il y a plus d'argent. On n'est pas dans une logique sportive.
Typiquement, il y a une citation que j'avais relevée en préparant ce podcast de Pete Smith qui disait « Les joueurs ne comprennent pas toujours le décalage sur le marché économique mondial en parlant de leur situation de joueur et de leur valeur en tant qu'actif. » J'aime pas ce mot-là parce que ça déshumanise beaucoup, mais voilà, c'est l'image qu'on emploie. Au-delà de l'éducation autour du monde économique autour du joueur, l'éducation culturelle autour de pourquoi c'est bien pour toi d'être dans ce club-là à ce moment-là, à quel point on relève du métier d'agent ?
Alors, c'est très intéressant. Je vais répondre. Je voulais juste apporter une toute petite précision, mais cette question est intéressante. J'ai déjà un exemple précis. Je ne pointe bien évidemment aucune opération quand je parle du fait qu'un joueur reçoit une proposition dans son club formateur et par ailleurs. Mais c'est quand même quelque chose d'important de manière générale. Je pense aussi que les agents, par rapport au contexte, beaucoup de monde sur le marché, licenciés, pas licenciés, etc., par rapport au manque ou à la perte de fidélité du joueur, vous avez certains agents qui se disent « Bon, de toute façon, en ce moment, on a la représentation du joueur. Que se passe-t-il si dans un an, on signe des contrats de 2 ans avec le joueur ?» On signe des contrats de 2 ans. Il y a des joueurs, je peux citer Joël Campbell, Yeltsin Tejeda, je peux citer d'autres exemples. Ça fait 10 ans qu'on collabore. Et puis, à tous les 2 ans, on ne regarde même pas s'il y a un contrat renouvelé, on l'envoie. Ouais. Mais le contexte actuel fait que, par peur peut-être de perdre la représentation du joueur, l'agent décide, tiens, il faut qu'on parte ici, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois ? Par rapport à ta question, prenons le cas d'Awa Sangaré, donc vient de signer son premier contrat professionnel au PSG. Elle est prêtée dans la foulée au Havre. Il y avait plusieurs possibilités. Le fait que je connaisse des personnes du club depuis des années, je lui indique, voilà, tu as fait quelques minutes en Champions League, certes, tu n'as pas encore débuté en championnat. Voilà, c'est un club qui est bien structuré. Le président étant américain avec cette culture du football féminin, tu as la possibilité de rejoindre une équipe, un club plus structuré que tel autre club. Je te conseille d'aller là. Bien évidemment, c'est elle qui prend sa décision finale. Ouais. Parce que vous pouvez avoir un... Je ne souhaite dénigrer personne. Mais être le membre de la famille d'un sportif ne fait pas de vous un spécialiste de son secteur d'activité. Donc, il est possible que ce membre de famille soit un spécialiste.
Oui, c'est ça.
C'est possible. Ouais. Parce qu'il a
étudié, voilà. Il s'est formé.
Ou il a joué.
Ou il a tapé dans le ballon, voilà, comme tout le monde d'ailleurs. Au cours de récré. Ouais,
auquel tout le monde
a tapé au foot.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que être le membre, vous avez des spécialistes.
Bien sûr.
Puisque, indépendamment du fait que le fils joue au foot, par exemple, Claudio Reyna, que je connais personnellement, qui est le directeur sportif à New York City.
Ancien grand joueur de foot américain qui a joué en Angleterre. Je précise
Pour les plus jeunes d'entre nous.
Pour les plus jeunes, ouais.
Tu fais bien. Je l'ai rencontré lors du transfert de Ronald Matarit, c'est un latéral gauche costaricien, donc de Alajuelense, c'est un club costaricien, vers New York City. On s'est connus lors de ce transfert. Alors, moi, je le connais par rapport au fait qu'il était joueur. Ensuite, il devient directeur sportif. Il a rejoint une autre équipe en MLS, toujours dans les mêmes fonctions. Il a un fils qui est footballeur.
Oui, qui joue à Dortmund.
Il m'a dit, voilà, même si je suis un spécialiste, j'ai décidé que mon fils doit être représenté par des spécialistes. Bon, voilà. Mais il aurait très bien pu...
C'est une exception.
Une exception.
C'est-à-dire, pardon, par des spécialistes, c'est-à-dire qu'il ne représente pas son fils.
Non, il ne représente pas son fils.
Il ne le conseille pas.
Il le conseille sûrement.
En tant que papa.
Mais c'est pas son représentant.
C'est pas lui. Pas lui.
Non.
Alternative football.
Je pense sincèrement que les joueurs ont besoin d'un agent. Pendant longtemps, j'ai entendu « Non, mais de toute façon, les joueurs, vous n'avez pas besoin d'agent. » Je crois sincèrement qu'on a de plus en plus, plus ça va aller, on a besoin d'agent. Pourquoi ? Parce que le marché du foot, il est global. Il y a une concurrence qui est impressionnante. Et ce n'est pas parce que tu joues dans ton petit championnat que tu es bon qu'en Angleterre, en Espagne ou au Portugal, les scouts, entre guillemets, ou les clubs te connaissent. Et donc, en fin de compte, avoir un agent, c'est avoir la possibilité d'être, entre guillemets, sûr, ou du moins avoir plus de chances qu'on parle de toi ou que ton travail puisse être vu et reconnu par en dehors des frontières.
Tout à fait.
Et ça, c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que il ne faut pas tuer les agents. Enfin, moi, c'est pour ça que j'ai voulu que tu sois là. Je ne veux pas qu'on dise on n'a pas besoin d'agents. Il faut qu'il y ait des agents, qu'il y ait une licence, qui soient cohérents, qui puissent apporter des vrais conseils et surtout qui puissent jouer leur rôle de prospection, d'intermédiaire, mais correct. Parce qu'effectivement, Mbappé n'a pas besoin d'agent. Et par contre, il n'y en a pas beaucoup d'Mbappé. Donc, tu vois, Neymar n'a pas besoin d'agent. Pour moi, les 80% des footballeurs ont besoin d'un agent. un vrai agent avec une licence qui soit carré, qui donne des bons conseils, qui soit juridiquement, on va dire, ouais, juridiquement, ouais, non, légalement légal.
Je pense que quel que soit le niveau sportif du joueur, il y a toujours quelqu'un, une personne, quel que soit le terme qu'on y met, qui négocie avec le club, qui parle avec le club, parce que le joueur lui-même ne va pas dire au directeur « Non, je ne veux pas gagner 100, je veux gagner 120. » Vous êtes dans une position, tu étais joueur, qui n'est pas confortable.
C'est super difficile de parler argent.
C'est compliqué.
Ouais. Enfin, moi, après, avec l'âge, ça a été beaucoup plus facile. Je commençais à gérer les primes. Ouais. J'étais beaucoup plus facile pour gérer les primes collectives.
Ouais.
Que pour parler de moi.
De ton salaire.
Ouais, c'est pas évident parce que tu dis, ah ouais, je sais que le club a des problèmes comme ça. C'est terrible de parler. Pourtant, j'ai pas de tabou avec l'argent. Et d'autant plus que l'argent est un tabou pour la grande majorité des gens en règle générale, donc pour les joueurs aussi. Donc, ils veulent gagner de l'argent. Mais par contre, quand on leur dit, combien tu veux ou bah, je sais pas, je sais pas. Ouais. Donc, c'est pour ça l'intérêt d'avoir un agent.
Et ce qui est hyper intéressant ce que tu dis, c'est que ça, c'est pas que dans le foot. Moi, je vois en entreprise, il y a des gens avec qui j'ai des super relations, ça se passe très bien, et quand ils viennent me voir pour discuter de leur salaire...
Ils bégayent, t'es en position de force.
Alors que c'est des gens qui, par ailleurs, sont excellents dans leur métier, pour effectivement, au début d'année, sur le montant des commissions, qui est un truc global, où tout le monde prend à peu près la même chose, si tu fais un nouveau deal ou si tu fais un renouvellement, ça va, parce que t'es noyé dans un collectif, donc t'as la force du groupe que tu représentes. Mais quand c'est pour parler de ton sujet, dans beaucoup de cas, et particulièrement en France, c'est toujours un sujet qui est difficile.
Alternative Football.
La raison pour laquelle les individus qu'on a mentionnés à plusieurs reprises, qui ne sont pas des agents, ne sont pas même, de mon point de vue, d'accompagner certains sportifs, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le marché. Connaître le marché, ça n'est pas simplement connaître le joueur, avoir 2-3 contacts dans le milieu du football, c'est connaître ce qui se fait en France, ce qui se fait en Espagne, ce qui se fait peut-être au Mexique, ce qui se fait en Arabie Saoudite. Je cite des pays avec lesquels j'ai eu la possibilité de négocier des contrats, entre autres. Donc, le marché, aujourd'hui, est global. C'est la raison pour laquelle j'avance le fait que je parle 5 langues.
Ouais.
Parce que j'ai eu un dîner très intéressant il y a peut-être 4 ans, à Evian, après un match. Donc, le président de l'époque, donc Joël Lopez, que tu connais. Nous sommes à table avec Aimé Jacquet et 2 joueurs du Costa Rica que j'avais à cette époque-là à Evian. Donc, Yelsin Tejeda et David Ramirez. Donc, Aimé Jacquet nous explique. On m'explique, on parlait un peu de sa carrière. Et il m'explique, voilà, j'étais au Girondins de Bordeaux, j'ai la possibilité de signer au Real de Madrid. Je ne parle pas espagnol. Je ne me sens pas en position de transmettre mon message aux joueurs. Donc, j'ai refusé le Real de Madrid. Quand vous êtes un agent... C'est un autre domaine, mais on parle toujours de langue. Il est beaucoup mieux, je pense, d'avoir à vos côtés quelqu'un qui s'exprime en italien, en français, en anglais, de manière fluide. Parce que les langues en France, des fois, sont négligées. Parler une langue, ce n'est pas dire 2-3 mots. C'est discuter, échanger de manière fluide. Quand vous faites appel à une tierce personne pour transmettre, les négociations peuvent être, je ne dis pas qu'elles sont mal faites, mais dans un contrat, il n'y a pas que les chiffres. Et malheureusement... Il n'y a pas que les chiffres dans les contrats. Mais quand il y a des problèmes, tiens, il y avait telle clause, tiens, vous avez signé ci, tiens, les impôts,
les Astérix,
on a retiré tel... Voilà, tout est important.
Je reviens sur le côté international, du coup, parce que c'est ce dont on parlait, au-delà du fait, effectivement, de parler plusieurs langues, mais du fait que, c'est, en fait, le foot, c'est plein de marchés dans un grand marché. Tu connais ça, Edouard, t'as joué à l'étranger. Et la FIFA, d'ailleurs, se remet à regarder ce sujet des agents. En préparant l'émission, je lisais un papier de l'équipe de la fin d'année dernière, qui disait que d'ici à l'été 21, ils voulaient réencadrer et potentiellement rétablir une licence FIFA autour de l'agent. Notamment, je crois que l'angle principal que prenait la FIFA, c'était stopper la triple représentation, à savoir pour l'agent ou le dealmaker, je te vois, Joachim, d'être payé et par le joueur et par les 2 clubs impliqués dans le transfert. Est-ce que tu es au courant que la FIFA se replanche sur le sujet, et est-ce que ça te rassure?
C'est ce qu'ils disent. Oui, ça me rassure. J'espère que ça verra le jour.
Ouais.
Je pense que en France, ça n'est pas pour être chauvin, Le fait que la licence soit maintenue est une très bonne chose pour le métier. Je me demande, avec toutes les dérives qui existent déjà aujourd'hui en France, sans licence, ce serait la jungle, quoi.
Ouais.
Donc, la FIFA, effectivement, nous autres agents français, nous devons respecter les règlements. On a un rapport d'activité à remettre à la fédération chaque année. J'ai fait partie des premiers agents contrôlés par la LFP, donc le contrôle financier qui est très lourd.
Ouais, il est poussé, il est poussé.
Voilà. On m'a même dit que c'était plus poussé qu'un contrôle fiscal. Mmh. Donc, on est sur un marché international, puisqu'on ne travaille pas qu'en France. Et les autres n'ont pas toutes ces règles à respecter. Je ne parle même pas des personnes qui travaillent sans avoir la moindre licence sur le sol français.
Moi, excuse-moi de te couper parce qu'il y a un sujet qui m'interpelle. Tu sais, les gros groupes américains d'agency, les sport agency, là, il y a Stellar Group, qui est anglais, qui a été racheté. Tu en as d'autres aussi. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas une agence française avec plusieurs agents français basés en France qui représentent les meilleurs athlètes français?
Je dirais qu'il n'y a peut-être pas culturellement cet esprit dans le football français. Je vais même aller plus loin. Il n'y a peut-être pas une culture forte du lobbying. Je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Je ne dis pas que, bien évidemment, ce grand joueur qui a gagné le Ballon d'Or cette année-là ne le méritait pas. Je ne dis pas cela. Il me semble que c'était en 2013. D'accord ?
Ouais, je vois très bien qu'il fait
référence. Je ne dis pas, c'est un grand joueur. Je ne dis pas qu'il ne le mérite pas. La seule question que je me pose, c'est comment le sport français, le foot français, à ce moment-là, dans son ensemble, ne soutient pas un joueur français. C'est-à-dire, on est français, médias, joueurs, journalistes, bref, tous les acteurs du foot, on ne soutient pas un sportif français. Donc, là, on a déjà un début de réponse par rapport à ta question.
Non, mais pour moi, Edouard, tu as mis le doigt sur un truc clé, c'est que la notion de lobbying en France, moi, ce qui me frappe, c'est qu'en France, lobbying, c'est péjoratif.
Non, il n'y a pas.
Que ça devrait pas l'être.
Non.
Mais en France, lobbying, c'est-à-dire que tu utiliserais ton influence pour avoir des avantages. Sauf que en anglais, je travaille également majoritairement en anglais, le lobbying, c'est
pas un gros mot.
Il n'y a aucune connotation négative. C'est-à-dire qu'effectivement, ça fait partie du jeu commercial, ça fait partie de la construction de ce que tu peux apporter à l'autre.
C'est pas moi qui dirais il n'est pas bon de parler avec, je dirais, un Italien ou un Argentin ou un Américain. Ou j'aime les cultures étrangères, ça fait partie de ma vie. Mais aujourd'hui, il est presque mieux d'être quelqu'un qui parle une autre langue, quelqu'un qui vient d'ailleurs, que d'être un Français. En France, c'est grave.
Ouais, et ça m'amène à une question un peu plus large, parce que c'est quelque chose qui est revenu un peu en fil rouge depuis qu'on discute, mais on a parlé effectivement de beaucoup de contextes internationaux, de travailler sur différents marchés. Et je suis désolé si je nous ramène à des trucs un peu plus froids et un peu plus guidés par l'esprit entreprise. Du coup, les notions de cross-cultural management, le fait de gérer des gens qui viennent de différents pays, de les amener sur des marchés où la culture est encore différente, les us et coutumes, jolie phrase à placer, sont différents. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu travailles? Tu te renseignes sur comment on bosse au Japon, si tu fais un deal au Moyen-Orient ou si tu fais un deal en Angleterre, en quoi tu dois te comporter directement dans l'approche? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu travailles? Et si oui, comment tu le bosses?
Alors, il y a une situation par rapport à cette question et par rapport à tous ces aspects culturels. Kevin Rodriguez, par exemple, qui appartient à la Real Sociedad, latéral gauche, qui joue à Eibar cette saison. On a eu l'été dernier une négociation avec un club portugais, donc il est international portugais. Mais Kevin est né en France. Donc Kevin, aujourd'hui, il parle mieux l'espagnol
que le portugais.
Donc bon, sans rentrer dans les détails, il y a eu un club qui s'intéressait à lui. Et pendant peut-être 24-48 heures, il y avait une personne du club, en fait l'entraîneur, qui souhaitait parler avec Kevin. Je ne vais pas rentrer dans les détails de qui, quel club, mais un club portugais. Il y a eu à un moment donné un malentendu parce qu'on pensait que Kevin ne voulait pas parler parce que je crois qu'il téléphone, il n'a pas réussi à l'avoir, il était occupé. Puis ensuite, j'ai expliqué, bon, la conversation, il faudra qu'elle ait lieu. Peut-être que vous allez parler en espagnol. Vous pouvez parler en portugais, mais si vous parlez en espagnol, ce sera mieux dans un premier temps, même s'il parle également portugais. Des fois, tous ces détails où l'autre personne, est-ce que la langue, elle est importante dans le football. Aujourd'hui, dans certains clubs, des grands clubs en Europe, si vous ne parlez pas anglais, vous ne pouvez pas jouer. Ou espagnol.
C'est vrai.
Si vous regardez aujourd'hui l'effectif du Paris Saint-Germain, je me demande en quelle langue il parle.
Ah ouais, non, mais
Mathieu, quelle langue il parle?
Je suis un peu le consultant, comme tu vois, le consultant slash supporter. Non, mais enfin, tu vois, ça, c'est, effectivement, on le voit à peu près à chaque fois que tu as un média qui met une caméra autour du terrain quand tu loges. Il y a effectivement beaucoup d'espagnols.
Beaucoup d'espagnols. Et Mauricio, il va réapprendre le français parce que ça fait une quinzaine d'années qu'il a plus parlé français. Mais
il est bon que nos joueurs aussi parlent au moins l'anglais et l'espagnol. Parce que demain, quand vous êtes transféré pour recevoir des ballons. Le football est une langue universelle, mais il est quand même bon.
C'est bien quand même de pouvoir appeler la balle, c'est ça.
De pouvoir.
Il y a une vingtaine d'années, il y a 15 ans, enfin, je ne vais pas dire 20 ans, ça me fait vieillir trop, il y a 10-15 ans, tu parlais italien, c'est bien, c'est la langue du calcio, italien.
Et maintenant, ça c'est un peu.
Calciatore. Et maintenant, c'est anglais. Ouais. C'est anglais, anglais, français.
Et espagnol.
Alternative football.
C'est qui l'agent de demain?
Je dirais. Ça fait plusieurs années, bien évidemment, je suis un agent. Je ne me considère pas forcément comme un agent ou je ne travaille pas forcément comme un agent parce que je suis plutôt un promoteur. C'est-à-dire que Melissa Herrera, qui joue à Reims, la sélection du Costa Rica, j'ai produit son documentaire qui est sorti il y a quelques jours sur une chaîne costaricienne, Foot TV, pour ne pas la citer. Et je ne me contente pas simplement, tiens, tu signes ici. Il y a un contrat, on est payé. Non.
Est-ce que tu te vois du coup, ouais, d'accord. Mais est-ce que du coup, tu te vois là quand tu dis t'es agent, ça passe. Tu dis je suis promoteur de joueurs. Ça fait, c'est pas péjoratif.
C'est la vision franco-française, celle-là.
Ok.
Parce que quand on est dans des pays anglo-saxons, je dirais on peut parler de promotion.
Good.
Ça ne me choque pas. Les personnes que j'ai en face, normalement, lorsqu'elles réfléchissent, comprennent qu'il n'y a rien du tout de péjoratif. L'agent tel qu'il est décrit par certains médias, certains, est presque devenu péjoratif. Le mot.
Ouais, non, mais c'est ça. Et c'est une des questions qu'on t'a quand on l'a préparé. C'est un métier, j'espère qu'on a su le réillustrer aujourd'hui, qui est au-delà de nécessaire, qui est indispensable aujourd'hui à la plupart des footballeurs. Pourquoi il a si mauvaise presse? Et en quoi ça peut aussi changer et quelle est la vision alternative qu'on doit avoir du métier d'agent et je pense que c'est ça qu'on a essayé d'illustrer aujourd'hui. Mais en fait c'est ça la question que posait Edouard, c'est comment ça va évoluer et j'aime beaucoup ta réponse, le côté promoteur. Parce que c'est assez proche d'un sport qui est cher à mon cœur, c'est la boxe. Où effectivement le métier n'est pas simplement la représentation juridique commerciale, c'est aussi comment, et je m'excuse encore une fois de refroidir un petit peu le contexte, mais comment le produit que tu travailles, le produit étant un boxeur, comment tu en fais le meilleur produit pour le meilleur marché, comment tu l'adresses de la meilleure manière au marché. Je pense notamment que dans le sport, ça passe beaucoup par la création de contenu. Et d'ailleurs, on voit qu'au-delà des agents, les ligues, les organisations type le F1 Group prennent ce virage-là en créant du contenu autour du produit pour reprendre le message et pour, encore une fois, enrober le produit central d'une narration qui lui est propre. Et sans vouloir te voler la réponse, parce que tu répondras bien mieux que moi, je pense qu'effectivement, le terme promoteur, dans ce qu'il englobe, c'est probablement vers là que va ce métier-là. Et ça passe par, effectivement, la création de structures qui peuvent le supporter.
Mais bon, les gars, vous m'avez convaincu.
Si demain, t'es agent et que tu veux produire du contenu, toi, Joachim, t'es pas producteur. Donc, il faut dire que dans son agence, il faudra qu'il ait des gens dont c'est le métier qui peuvent générer du contenu, faire des docs, poster sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un métier.
Tout ce qu'il faut pour toi, Joachim.
Ouais, c'est tout ce qu'il faut.
Non, mais tu vois, le fait d'expliquer ça, déjà, à mes oreilles promoteurs, ça me choque moins.
Ça te choque moins.
Ouais, quand tu m'as dit promoteur, je me suis dit, attends, c'est pas possible. Et là, ça me choque moins. Et donc, du coup, bien expliqué, vous me l'avez super bien vendu, promoteur.
Je me vois plutôt comme un homme d'affaires qui fait également de la promotion. On n'a pas tous la même vision et je pense aussi des choses. Et je pense que les décisions qui seront prises par la FIFA, par rapport à ce que tu indiquais, dicteront aussi le futur. Est-ce qu'on revient à l'examen ? Il n'y a pas d'examen ? Parce que ça fait quand même... C'est important.
Pour conclure, c'est une question que je vous repose à tous les deux, du coup. En tout cas, à toi et à probablement une ancienne version de Monsieur Cissé, d'il y a quelques années. Le joueur, donc. L'agent fait-il la carrière ?
Il faut dire que non. Il faut dire que non, parce que à la base, il faut du talent pour être un footballeur. Donc, par contre, être bien accompagné vous permet d'atteindre, je pense, les sommets. Dans tous les cas, il faut le bon accompagnement, soit-il un agent, soit-il peut-être pas un agent. Quand vous êtes un sportif, je dirais même au sens large, pas simplement un footballeur, il vous faut une équipe de travail qui vous permette d'atteindre le haut niveau et de rester au haut niveau. Ça, ça fait la différence. Parce que finalement, négocier la sortie du joueur d'un club A vers un club B, entre guillemets, tout le monde peut le faire. Dire au joueur, quand tu partiras de ce club dans tel pays, tu rejoindras tel autre club dans tel autre pays culturellement, culture pays, culture club, par rapport à tes caractéristiques, c'est ici que tu vas exploser, tout le monde n'est pas capable de le faire. Et ensuite, toute la promotion de laquelle on a parlé. Voilà.
Moi, je vais dire, un bon agent aide à faire une belle carrière. Mais le bon agent, tu vois, ça, c'est super important. Un bon agent, pour moi, c'est un petit peu ce dont on a discuté dans le podcast. Un bon accompagnement, un mec qui est câblé, qui parle des langues, qui arrive à te faire prendre conscience que le projet sportif est plus important que le projet financier en fonction de ton âge. Tu vois, parce qu'en fin de carrière, bah, tu vas dire, bah, projet financier, il faut l'étudier. Peut-être plus l'étudier que quand tu as 20 ans. Tout ça fait que si c'est un bon agent, tu as de fortes chances de faire une bonne carrière. Et c'est ce que j'ai eu la chance d'avoir. Donc oui, effectivement, l'agent, le bon agent peut faire la carrière. Fait la carrière, d'ailleurs.
Merci pour l'invitation.
Avec plaisir, Joachim, merci à toi.
C'était un plaisir d'échanger.
Joachim, merci.
Avec vous.
Mathieu, on va se revoir bientôt. Joachim, rendez-vous dans 15 ans, si j'ai bien compris, dans le long terme.
Et on pourra faire le bilan. On fera le bilan, comme dirait Jackie et Benji.
Calmement
de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, et puis voir si on n'était pas trop loin de la réalité.
J'espère avoir beaucoup de choses à vous dire si on se revoit dans 15 ans.
Oh, t'inquiète pas, va mon petit gars.
Ciao les gars. Salut messieurs, merci.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Alternative football. Alternative football. Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football. Alternative.